Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour dans Chrétien d'Orient, ce matin de Noël, que nous vous souhaitons joyeux et heureux en famille. J'ai l'immense plaisir d'être avec le Père Charbel Malouf. Bonjour Père.
Bonjour.
Pour évoquer cette joie de la nativité de notre Seigneur. Alors, une lecture pour commencer. Je vois qu'il y a une lettre magnifique, la lettre de Sophrone, une homélie sur la nativité. Alors je commence peut-être par les premières phrases et puis vous continuerez. Joie de Noël. D'une part, les mages et les bergers pleins de Dieu ont marché jusqu'à Bethléem, porteuse de Dieu, ayant pour compagne de route une étoile, et ils ont contemplé la merveille de toutes les merveilles. Ils ont été frappés, la stupeur devant ce spectacle, et ils ont vu le cœur angélique. Ils ont offert les fruits de leur activité de mage en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre, et bienveillance parmi les hommes. N'ayant peur de rien, ne songeons pas à la terreur paralysante et ne nous soucions pas de la démence d'Hérode. »
Mais ayant en eux des réflexions divines, ils ont contemplé le nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans la crèche qui accueillit Dieu, lui qui est le sauveur de l'univers, le Seigneur et Dieu véritablement ineffable. Si pour nous qui sommes charnels, il s'est caché dans une enveloppe de chair, c'est parce qu'il est impossible de voir la divinité pure et dénuée d'une chair humaine et d'un corps. Cette lettre, cette homélie de Sophrone, patriarche de Jérusalem, nous montre déjà la fête de Noël. On est au 7e siècle et c'est devenu une habitude de fêter Noël le 25 décembre. Après Rome, c'est Constantinople, puis Antioche et enfin Jérusalem qui intègrent cette fête le 25 décembre. Évidemment, il y avait beaucoup de problèmes autour de la date de la nativité du Seigneur. Mais à partir du 7e siècle, presque tous les patriarcats du premier millénaire, sauf Alexandrie, fêtaient Noël le 25 décembre, surtout le soleil de justice à la place de Mithra dans le paganisme. Ce qui est très intéressant à signaler en lisant, en contemplant cette homélie, c'est qu'elle est pleine de joie. Sophrone nous montre la joie des mages, des bergers et même des anges quand ils commencent à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Et même, il nous dit « N'ayant peur de rien ». Et donc, on voit très bien que Noël, la nativité du Seigneur, le mystère de l'incarnation, est une joie pour toute l'humanité, voire tout l'univers, parce que c'est un lieu de réconciliation, un lieu de salut, un lieu de renaissance et de renouvellement. Et donc, il n'y a plus place pour la peur, au contraire, c'est la joie, c'est l'espérance, puisque le salut est donné gratuitement par le Sauveur, né aujourd'hui à Bethléem.
Alors j'évoquais la famille dans ma petite introduction, c'est un lieu de retrouvailles aussi, cette fête de la nativité, la famille qui se retrouve, alors évidemment chacun à nos niveaux, mais peut-être d'une manière plus symbolique.
Exactement, la fête de Noël, c'est la fête de la retrouvaille de la famille, puisque c'est la fête de la naissance du Sauveur, surtout qu'il y a quand même une retrouvaille même au sein de la famille, de la Sainte Famille Joseph. Il est là, la Vierge Marie et évidemment Jésus-Christ. Et donc c'est quelque chose de très symbolique, mais surtout il ne faut pas oublier pendant cette fête puisqu'il y a bien sûr le côté un peu folklorique, le côté traditionnel, etc. Mais il faut surtout ne pas oublier le sens sacré de cette fête. Noël, pour nous, chrétiens, c'est la naissance de Dieu lui-même dans la chair pour nous révéler ce qu'il est et surtout pour nous apporter le salut un jour à la fin de sa mission à travers sa mort et sa résurrection. D'où le lien fondamental aussi chez les pères de l'Église quand ils contemplent cette grande fête. Saint Jean Chrysostome nous dit que c'est la fête la plus sacrée quand il intègre cette fête à Antioche vers la fin du IVe siècle. Eh bien, il nous dit que c'est la fête la plus sacrée puisque Dieu nous est né comme un enfant, comme faible, quelqu'un de faible, pour nous donner la richesse de la divinité et surtout la divinisation. En faisant un lien entre l'incarnation, donc la fête de la nativité, Noël, et le mystère pascal, la mort et la résurrection du Seigneur. Ce qui est frappant en lisant presque tous les pères de l'Église et même les grands saints, et même l'iconographie dans la tradition byzantine, que ce soit orthodoxe ou catholique, avec toutes les écoles, on voit un lien fondamental entre l'incarnation de Jésus dans la grotte. Il y a aussi le noir et puis Jésus emmailloté en blanc, qui nous rappelle finalement la scène de la mise au tombeau dans la grotte, mais aussi il est emmailloté en linge blanc. Et cela nous rappelle donc que l'incarnation est déjà le lieu du salut qui symbolise, qui prophétise aussi le mystère pascal, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors Père Malouf, quels sont vos plus beaux souvenirs de Noël au Liban, peut-être dans la montagne libanaise ou en famille?
C'est en famille, puis en communauté, c'est toujours... comme vous avez dit, un lieu de retrouvailles, mais surtout un lieu de prière. Et puis, on se prépare à accueillir Jésus-Christ, non seulement dans une crèche, mais surtout dans notre cœur. Et quand on accueille Jésus, il y a quelque chose qui change dans notre cœur, dans notre existence, dans notre regard, et même dans notre retrouvaille, que ce soit en famille ou en communauté ou en paroisse, parce que Jésus... quand il entre dans notre cœur, il change quelque chose en nous. Et nous aussi, nous sommes transformés par sa présence. Et donc, ça me rappelle toujours cette transformation. Jésus est là pour nous donner quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et quelque chose qui nous divinise, comme nous dit encore une fois Saint Sophrone et Saint Jean Chrysostome.
Et que nous puissions nous-mêmes nous transformer à l'image de sa vie.
Tout à fait. C'est une... invitation à un changement, à une transformation, à une imitation. Si Jésus est né pour nous, c'est pas uniquement quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans ou quelque plus, mais surtout aujourd'hui, Jésus vient changer quelque chose dans notre vie, dans notre monde, dans notre société qui souffre, surtout par exemple avec la crise sanitaire que nous traversons, la peur qui s'installe, la mort. Eh bien, je pense que Noël change en nous et nous quelque chose et nous donne cette joie de ne pas avoir peur. Et même quand les pères et même l'iconographie byzantine nous invitent à méditer sur Noël et sur la résurrection, ça veut dire que la mort n'est qu'un passage. Et face à cette épidémie que nous traversons partout dans le monde, il faut qu'on se rappelle, et c'est une des leçons de Noël, que la mort n'est rien, que la mort n'est qu'un passage. Évidemment, c'est difficile sur le plan humain, mais quand on est vraiment avec Jésus-Christ, quand on est transformé avec et par Jésus-Christ, notre regard par rapport à la mort change. Et je pense que là, Noël, cette retrouvaille en famille, doit nous aider à surmonter cette peur, à envisager autrement la mort, à apprendre à mourir, parce que la mort, pour nous chrétiens, est un passage pour rencontrer celui qui est descendu pour nous, Jésus-Christ.
Alors, Père Malouf, vous êtes un spécialiste de l'histoire intellectuelle du IVe siècle, un siècle très important pour l'histoire du christianisme, un moment où la foi s'affirme en termes de théologie, en termes de références qui nous marquent jusqu'à notre époque. Quel parallèle un peu audacieux pourrions-nous faire jusqu'à notre époque, c'est-à-dire à une époque où les gens se cherchent, où les gens n'ont pas forcément une idée de telle ou telle religion? Comment vous, en tant que représentant de l'Église, en tant que missionnaire d'une certaine manière, vous prêcheriez ce symbole de la nativité pour attirer et pour expliquer peut-être la bonne parole?
Le premier parallèle qui vient à l'esprit, c'est justement à travers la date de Noël. C'est quelque chose de très symbolique. Le 25 décembre, c'est la fête du soleil comme Dieu, et alors les chrétiens, et surtout à partir de l'église de Rome, en 354, changent la date de Noël pour justement fêter cette grande fête le 25 décembre. Mais c'est une invitation de la part de l'église de Rome aux païens, parce que au IVe siècle, il y avait encore des païens, que ce soit à Rome ou même en Orient, à Antioche aussi, pour que les païens se convertissent au christianisme et surtout rencontrent ce soleil de justice, le Christ, qui est pour nous le Dieu incarné. Donc le premier parallèle est toujours d'actualité. L'Église, qui fête Noël le 25 décembre, invite le monde, la société d'aujourd'hui, pas les païens, mais ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, à cette rencontre qui est une source de joie, une source d'espérance, une source de salut et de connaissance. Et le deuxième parallèle qui me vient à l'esprit aussi en contemplant cette fête de la Nativité avec les pères de l'Église, c'est que justement cette fête révèle pour nous le vrai Dieu. C'est à travers cette fête, l'incarnation, et c'est pour cela d'ailleurs, beaucoup d'églises orientales fêtent jusqu'à aujourd'hui Noël, la nativité, avec l'épiphanie. L'épiphanie en grec qui veut dire la manifestation de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, fête la nativité avec l'épiphanie pour nous dire que ce jour-là, Dieu se révèle pour nous et se montre comme Seigneur, pour le salut de toute l'humanité, voire de tout l'univers. Et donc, cela rappelle encore une fois cette révélation du vrai Dieu. Notre monde n'a-t-il pas besoin de changer de regard par rapport à Dieu, à replacer Dieu autrement dans la société, face au fanatisme religieux qu'on le voit partout? Ce n'est plus Dieu tel que nous le concevons, mais c'est un faux Dieu. J'ose dire, une idolâtrie qui remplacerait Dieu, le véritable, par un autre Dieu, voire des dieux et des idoles. Et donc, Noël, c'est la fête pour montrer à toute l'humanité le vrai Dieu et surtout d'éviter la tentation qui traverse toute la Bible, que ce soit l'Ancien, le Nouveau et même l'histoire de toute l'humanité, l'idolâtrie, c'est-à-dire remplacer Dieu par des faux dieux ou par des fausses idoles.
Et peut-être que nous pouvons retrouver Sophron avec une lecture, Joie de Noël et la divinisation, avec le premier paragraphe, Dieu est sur terre, je vous laisse là la parole.
Dieu est sur terre, qui ne deviendrait céleste? Dieu né d'une vierge s'avance, qui aujourd'hui ne serait divinisé? Qui n'accepterait ce don en recherchant avec ardeur la pureté et la tempérance de la Vierge, afin de devenir plus proche de Dieu? Dieu est enveloppé d'humbles langes. Quel homme, embrassant ce qui est humble en lui, ne serait enrichi par sa divinité? C'est pour cela qu'il s'est revêtu de la pauvreté humaine, afin que nous devenions Dieu par grâce. Un texte très important et très intéressant pour comprendre la foi chrétienne est la finalité, finalement, non seulement de l'incarnation, mais toute l'histoire du salut, et je dirais, toute la démarche chrétienne, hier, aujourd'hui et demain. Dès Saint Justin, et surtout des saints Irénée de Lyon, pas loin de chez nous, ici en France, et avec saint Athanase d'Alexandrie, tous les pères presque ont médité Noël et puis ont développé ce terme de la divinisation. Saint Athanase nous le dit expressément, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Évidemment, dans ce texte, Sophrone rend encore plus clair cette doctrine de la divinisation qui caractérise toute la spiritualité orientale. Dès la patristique chez les pères, on voit ce lien fondamental entre Noël et la divinisation. C'est-à-dire Noël, la nativité du Seigneur, l'incarnation de Dieu qui devient homme comme nous, eh bien, est une invitation, un appel à ce que nous aussi, nous devenions Dieu, mais comme nous dit saint Sophrone, par grâce. Et c'est là la grande différence pour comprendre aussi la divinisation chez les pères. Nous ne devenons jamais Dieu par nature. C'est uniquement le Christ qui est Dieu par nature, mais nous, les humains, en participant de la nature divine et en faisant cette démarche intérieure spirituelle de divinisation, d'élévation, de transformation et on peut dire de transfiguration, eh bien nous pouvons devenir Dieu par grâce. Et la finalité de Noël et de la foi chrétienne, justement, c'est que nous devenons Dieu en participant à la beauté de la nature divine et en témoignant justement dans notre vie de tous les jours que Dieu est vivant et de toutes les caractéristiques de la nature divine. Autrement dit, la divinisation commence dès ici-bas, à travers évidemment la foi, les sacrements, la prière, la charité. Tous ces moyens nous conduisent vers Dieu et nous conduisent vers la divinisation qui est pour saint Sophrone, le but ultime de Noël et de la nativité de notre Seigneur.
En ce jour de grâce, Père Mahalouf, est-ce que vous auriez un mot, une pensée peut-être pour vos frères d'Orient, que ce soit au Liban, en Syrie ou en Irak, qui nous écoutent, qui traversent avec nous ce moment de retrouvailles justement?
Évidemment, une pensée toute particulière à tous les chrétiens d'Orient, pour toutes les confessions, toutes les églises, toutes les traditions, qu'ils soient en Orient ou dans le monde entier. Je répète cette belle phrase de saint Luc, qui a été d'ailleurs contemplée par Sophrone, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Nous avons évoqué un élément de Noël, la joie, l'espérance, mais on pourrait aussi évoquer d'autres aspects, notamment la paix. Je souhaite que les chrétiens d'Orient puissent vivre vraiment cette fête dans la joie et la paix, malgré toutes les crises politiques, économiques, financières, sécuritaires qui traversent ces pays et où les chrétiens deviennent quand même de plus en plus cibles et victimes de certaines visions et certains fanatismes religieux. Donc j'espère que la paix dont nous parle Jésus devient une réalité. Et là, je m'adresse aussi non seulement aux chrétiens d'Orient, mais à tous les responsables religieux et politiques, qu'ils puissent faire vraiment toutes les démarches pour que nous arrivions à la paix. La paix, ce n'est pas une théorie. La paix, ce n'est pas uniquement un contrat qu'on signe entre les grandes autorités. La paix est une démarche véritable qui donne aux humains une sérénité intérieure, une joie intérieure. Et les chrétiens d'Orient, comme d'autres populations en Orient, ont besoin de cette paix. J'espère que tout le monde œuvre cette année, l'année prochaine, pour cette paix, pour que nous puissions vraiment vivre Noël et vivre tout court dans la paix, la joie et l'espérance.
Je voudrais citer le Saint-Père la joie de haut niveau quand elle est là en plénitude et la joie humble de tous les jours, c'est-à-dire la paix. La paix est la joie, plus petite, mais elle est la joie. Un petit mot peut-être pour nos frères du Liban qui nous écoutent.
Une prière de tout cœur adressée à tout le peuple libanais. Et surtout, j'invite ce peuple à une révolte sainte. À une révolte parce qu'ils ont besoin de vivre dans la paix, dans la sécurité, dans la stabilité. Et j'invite surtout le peuple à ne pas accepter l'injustice politique et économique parce que il s'agit de son avenir. Il s'agit de l'avenir non seulement des chrétiens, du vivre ensemble. Il s'agit de ce beau message qu'est le Liban. Si on ne fait rien aujourd'hui, demain on perdra le Liban message, le Liban comme dialogue, le Liban comme vivre ensemble. Donc j'invite le peuple libanais, que ce soit des chrétiens ou les musulmans, à projeter vraiment dans cette perspective une révolte sainte pour vivre le dialogue et le vivre ensemble dans la paix et la joie.
Père Charbel Malouf, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous, jusqu'au micro de Chrétien d'Orient sur France Culture en ce matin de Noël. Joyeux Noël à tous et je voudrais aussi remercier François Connac, Claire Poinsignon et Pierre Monteil, voilà, pour la réalisation et la technique de cette émission. Restez sur France Culture, je vous souhaite encore de très très belles fêtes de Noël.
Alléluia, Alléluia. نجم صغير يا باب مغارة هللو هللويا وجراسه تلج ورعيا
هللو هللويا هللو هللويا هللويا هللو هللويا
راعي ينده راعي نجمي وبيت يقلو البيت خلق الليل ملك المجد
هللو هللويا هللو هللويا هللو هللويا هللو هللويا
رب السما والشت والبحر ينده غيمو نجمة نادي تحني جبينا لاسمه الشمس وبتركع له ملوك الأرض
هللو
هللويا وجراسه تلج ورعيا هللويا وجراسه تلج ورعيا